RCF.
Bonjour à tous et merci d'être fidèles à cette nouvelle émission Parole d'évêque en compagnie et avec pour invité Monseigneur Xavier Mal. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christine, bonjour à tous nos auditeurs.
Alors, on va commencer cette émission par un discernement. Est-ce que vous pouvez nous aider, et je pense que vous pouvez le faire, sur la situation, nous aider à discerner un petit peu sur le sujet de conversation principale en ce moment, donc les élections.
La dissolution.
Et ouais. La dissolution également.
Alors je serais déjà bien mal en... Je n'aurais pas la possibilité de vous dire pour qui voter, d'une part ça me regarde, d'autre part c'est très compliqué en fait. Et c'est ça que je me suis dit... Pour qui moi-même j'ai envie de voter, quoi. Donc c'est ça la première question que chacun d'entre nous doit se poser. Et donc j'ai essayé de réfléchir un peu quels étaient des éléments pour mon discernement. J'ai mis ça par écrit. Donc vous trouverez sur le site internet du diocèse un article intitulé « Élections aide pour discerner ». Et en fait c'est une invitation à trois choses. D'abord s'auto-former. Ensuite exercer son devoir électoral. Et troisièmement prier pour notre pays. Voyez. Alors s'auto-former, tout simplement, je propose le dernier texte que nous étudions ensemble, qui est « Dignitas Infinita ». Voyez. Je crois que c'est l'occasion, voyons, cette période, ces 15 jours qu'on a, de lire ce texte-là. J'invite nos auditeurs à le faire. Voilà, pour voir un peu quels sont des critères pour nous, objectifs de discernement. Et puis, derrière, ce qui me frappe un peu dans ce texte « Dignitas Infinita », c'est la cohérence de la pensée chrétienne. Il y a pour nous une seule humanité, une seule même dignité entre l'embryon à naître et la personne âgée en fin de vie, mais aussi le pauvre, mais aussi le migrant, mais aussi la personne handicapée, la personne malade, etc. Vous voyez cette cohérence-là. Deuxième point, exercer son devoir électoral. Alors par exemple, je suis allé faire une procuration parce que je serai en vacances lors du deuxième tour. Donc je suis allé faire la procuration et je crois que c'est... On a une telle chance de pouvoir voter. Il y a tellement de pays où il n'y a pas de la possibilité de voter. Voyez. Donc il me semble qu'il faut vraiment l'exercer.
Et on se dit que c'est d'autant plus important...
Et puis aujourd'hui et l'enjeu est vraiment important.
Chaque vote est important.
Chaque vote est important, si vous voulez. Et puis troisième point, c'est prier pour notre pays. Et quand il n'y a pas de saint, alors aujourd'hui il y a un tout jeune saint, Saint-Louis de Gonzague, mais quand il n'y a pas de saint, moi j'aime prendre, depuis quelques jours, je prends la messe pour le pays, notamment l'oraison de la messe pour le pays, on vous l'a remise sur le site internet du diocèse, je crois qu'elle est très apaisante cette prière, et on vous l'a remise, donc n'hésitez pas à la rechercher là-dessus.
Quand on parle de ça, il va y avoir une nouvelle canonisation à Rome avec un très jeune saint
qui s'appelle Carlo Acutis.
Voilà, et oui. C'est le premier saint du 21e siècle.
Premier saint du 21e siècle, il est mort en 2006, je crois, de mémoire, 2006, dans le nord de l'Italie. Il est enterré à Assise. Et je crois que c'est une très belle figure. Il est mort à l'âge de 15 ans. Et dimanche dernier, lors de la première communion à Embrun, où j'étais pour prêcher la retraite sur Notre Père, j'en ai parlé et j'ai cité certaines de ses paroles sur la communion qui sont réellement magnifiques, quoi. Alors, on ne connaît pas la date encore de la canonisation, béatification, mais ça viendra au cours de l'année jubilaire 2025. Normalement, le Vatican a annoncé ça, oui.
Alors, une petite parenthèse, mais on va continuer justement sur la situation en France. Vous avez donc permis des points de réflexion sur le site du diocèse, mais on peut aller également sur le site de la Conférence des évêques de France, où aussi il y a un texte que l'on peut lire.
Voilà, c'est une réflexion des évêques du Conseil permanent. Et il se trouve que j'étais pour la pastorale de la santé à Marseille hier et avant-hier. Et on a déjeuné avec Jean-Marc Aveline, notre archevêque, et j'ai pu lui en parler un peu. Il m'a expliqué un peu le sens de ce texte. Ils m'ont dit c'est très difficile pour les évêques de donner des choses très précises, des critères très précis. Vous voyez, moi-même, je donne des critères un peu larges, quoi.
Puis il y a un droit de réserve aussi, non ?
Alors non, mais il y a surtout une conscience. Et donc nous, il s'agit de former notre conscience, mais c'est, je crois que ce n'est pas notre mission, nous, des évêques, de forcer les consciences. Vous voyez, on doit voter en son âme et conscience, mais il faut former notre conscience, c'est ça, nous. Et donc ils m'ont dit, les évêques, le conseil permanent a surtout réfléchi à l'après, le 8 juillet, quand on se réveille, quelle que soit la situation politique, quel que soit le futur Premier ministre ou la future Première ministre, etc. On se réveille, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est là où le texte du Conseil permanent des évêques est intéressant, en rappelant la nécessité de la paix sociale. Hein, je vous cite un extrait. « Demain, le 8 juillet, quels qu'auront été nos choix électoraux, nous tous Français, nous aurons encore et toujours à respecter nos concitoyens qui auront d'autres opinions que les nôtres. » Et à œuvrer ensemble à la continuité, à l'amélioration de notre vie sociale commune. Oui. Donc c'est vraiment un appel pour se respecter. Je crois que c'est valable pendant ce temps électoral de respecter les uns et les autres. Mais c'est aussi un appel pour se respecter après. Oui, après, quel que soit le résultat. Nous aurons toujours à nous garder de la violence, à veiller à ne pas diffuser la colère et la haine, à ne pas nous résigner à l'injustice, mais à lutter pour la justice par les moyens de la vérité et de la fraternité. Demain, chacun devra toujours s'inquiéter de ceux qui vont moins bien que lui. Et les évêques proposent aussi une prière, qui est très belle aussi, qui peut nous aider, qui est un complément, j'allais dire, la prière du missel que je proposais. Voilà, donc les trois choses, nous former, nous auto-former. Deuxièmement, aller voter, quitte à faire une procuration. Et troisièmement, prier. Voilà, comme ça. C'est comme ça que moi, personnellement, j'essaye de vivre ce temps qui n'est pas très facile.
Alors, est-ce que c'est une période de bilan pour le diocèse, la fin juin ? Est-ce qu'on... Je vous pose la question régulièrement selon le rythme de l'année.
Alors, on va avoir un conseil épiscopal de fin d'année pendant deux jours, les 1er et 2 juillet. Là. Et donc là, ça va être l'occasion de faire le bilan, etc. Oui, tout à fait.
Et vous nous avez parlé de vacances tout à l'heure ?
Moi-même, je vais partir après, début juillet. Après, je partirai une semaine de vacances, effectivement. Ça fait du bien, on a besoin. Je crois que chacun d'entre nous, on a besoin de se poser un peu pour se reposer, tout simplement les neurones, hein, et physiquement marcher, etc. Et alors, pour moi, prendre des vacances, il faut que je quitte le diocèse vraiment. Quoi.
On imagine. Vous parlez souvent de vacances en montagne. Est-ce que ça sera le cas ?
Alors, pas tout à fait là. Ça sera plutôt une grande ville, mais un peu plus tard, je vais reprendre une deuxième période. Enfin, ça sera plutôt une retraite, mais peut-être 2-3 jours après la retraite, ma retraite annuelle aussi, où j'irai en montagne à nouveau, mais dans d'autres montagnes à nouveau.
Alors je suppose qu'il faut organiser la rentrée aussi, après les vacances ou pendant les vacances.
C'est ça.
Non, pas pendant les vacances, bien sûr. Et on va parler des nominations 2024 du diocèse.
Oui, qui ont fini par sortir. On est très en retard, mais je vois que tous les diocèses sont en retard cette année. Je ne sais pas pourquoi, mais on attendait en fait un certain nombre de réponses. Donc je vais vous donner un peu des... Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait à l'antenne ou pas, les nominations.
Pas du tout.
Alors on peut balayer un peu tous les doyennés, donc le doyenné de Gapençay avance Champsaur. Il y a deux arrivées et un départ, une arrivée dont Dominique Roussel, qui est un membre de la communauté Saint-Martin, qui va arriver à mi-temps. C'est un prêtre qui a été curé très longtemps, qui a déjà passé l'âge de la retraite civile, on va dire, 67 ans il a, et donc il va être à mi-temps pour pouvoir se reposer un petit peu, mais on est heureux de l'accueillir. Le père Thierry Fortéléoni, qui est un moine de l'abbaye de Foncombeau, qui est nommé prêtre auxiliaire de la paroisse Saint-Arnoux en Gapençay pour la messe en rite antique, et il est aussi nommé chaplain au lot. Et puis on a un départ, dont Pierre-Emmanuel Dieudonné, qui est un diacre en vue du sacerdoce de la communauté Saint-Martin, qui est déchargé de ses missions et remis à disposition de sa communauté. On a des changements aussi dans le Champsaur, où nous avons le départ au bout de 6 ans de mission de curé du père Jean-Guy Ramélie Giaouana. Et c'est le père, il va y avoir un jeu de chaises musicales, c'est le père Bienvenu qui s'installe comme curé à Saint-Bonnet. Et le père Jean Nestor va aller dans le Haut-Champsaur comme vicaire chargé de ce secteur, mais comme il est un tout jeune prêtre, il va avoir un curé au-dessus de lui avant de pouvoir, on espère après, devenir curé lui-même. Et il va y avoir un nouveau prêtre qui va arriver, qui va être ordonné prochainement à Madagascar, qui doit arriver après. Donc on garde 3 prêtres. Je ne sais pas si nos auditeurs entendent la pluie, mais il pleut bien.
J'allais leur en parler. On a un bruit de fond. C'est...
Un bruit de fond, c'est
voilà,
la pluie.
C'est la pluie.
Et puis au sanctuaire Notre-Dame du Lot, on a le départ du père Pavel, qui a fait 1 an. C'était prévu, donc il s'en va au bout d'1 an. On espère, alors peut-être pas cette année, semble-t-il, mais l'année prochaine, réavoir à nouveau un chaplain polonais. Et puis je disais donc, le père Thierry Fortéléoni est déjà arrivé depuis janvier, le père Philippe Blanc. Après, on a une autre arrivée dans le doyenné du Briançonnais, le père Mathieu de Varenne, qui arrive. de Paris, il vient pour respirer le bon air, là. Et il remplace le père Jean-Pierre Toumaou, qui est un prêtre Fidei Donum, qui a fait 6 ans à Gap et qui est mis à disposition de son diocèse. Donc, voilà. Voilà. Et puis au niveau diocésain, il y a Philippe Castagnou, qui est diacre permanent, qui est référent des groupes de prière. Jean-Marie Dezon, prêtre délégué diocésain à la formation au ministère, c'est-à-dire l'accompagnement des séminaristes. Le père Ludovic Frère, qui est nommé comme expert en théologie pastorale au Conseil pastoral missionnaire diocésain. Voilà, je ne vous donne pas les prolongations, mais juste les nominations. Le père Steve Milongo, nommé membre du groupe bioéthique. Le père Thibaut Varis, à la demande des pompiers, qui est nommé aumônier du corps départemental des sapeurs-pompiers des Hautes-Alpes. Voilà, donc arrête leur mission, en particulier André Vallée, pour la mission déléguée à l'œcuménisme. Il va être remplacé par Madame Annick Dumas, comme déléguée à l'œcuménisme, avec Bertrand Gournay comme prêtre accompagnateur. Voilà, qui arrive. Il y a Heinrich Bloch, qui est nommé responsable formation permanente. Je ne sais pas si vous l'avez déjà accueilli ici.
Vous en avez déjà parlé, en tout cas.
Ce serait bien que vous l'accueilliez à la radio, qu'il explique un peu tout le projet, au bout d'un an de travail, qu'il va mettre en œuvre, là.
On va mettre ça en place.
Voilà. Et puis, on a dans l'enseignement catholique aussi, on a des départs. Et donc, en arrivée comme adjoint 05 au directeur interdiocésain, M. Christian Dessous, qui est un directeur retraité, là. Voilà un peu les nominations. Voilà.
Tu vois, ce sont des bonnes nouvelles. Ça bouge comme ça sur le diocèse.
Ce sont des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que pour un évêque, c'est toujours un peu angoissant, vous voyez. Au milieu d'année, ben, l'an prochain, voilà. Et on voit à chaque fois que le Seigneur ne nous abandonne pas. Hein. Et donc j'ai encore quelques angoisses pour les années à venir. Mais voilà, le Seigneur ne va pas nous abandonner. Vous voyez, il nous a envoyé un prêtre de Paris pour le nord du département, un ancien moine pour faire la messe en latin. Enfin voilà, donc on est vraiment aidé par le Seigneur là-dessus.
Et c'est effectif le 1er septembre ?
Au 1er septembre, certaines des fonctions sont déjà depuis le 1er janvier dernier. Je pense au père Philippe Blanc Holo qui est déjà en fonction depuis le 1er janvier, mais toutes les autres sont effectivement au 1er septembre.
Nous allons maintenant nous pencher sur un sujet qui vous tient à cœur tout particulièrement. Monseigneur, on sait que vous réfléchissez beaucoup en matière de bioéthique et on va parler du projet de loi sur la fin de vie. Alors, la démarche est un petit peu arrêtée actuellement, mais...
La démarche législative est
législative,
arrêtée,
voilà.
Mais elle est bien dans la tête de beaucoup de personnes.
Tout à fait. Hein,
et donc, y compris d'un certain nombre de futurs députés. Et donc, on craint évidemment que le projet soit repris. Alors, il sera obligé d'être repris à zéro. On va dire qu'on a gagné quelques mois ou quelques années, mais on ne se fait pas beaucoup d'illusions sur la reprise. Et c'est pour ça que je vous proposais de continuer cette formation là-dessus, en reprenant toujours ces questions.
Les trois questions.
Qui sont un petit document fait par la commission bioéthique de la CEF et que je trouve bien fait. Ouais.
Alors la première question, c'est qu'est-ce qui différencie cette loi de la loi précédente, Monseigneur ?
Alors il y a eu deux lois précédentes, la loi de 2005, la loi Leonetti, qui introduisait l'interdiction de l'obstination déraisonnable. C'est une chose importante, voyez. Nous, l'équilibre que nous tenons à garder comme chrétiens et que la loi tenait, c'est-à-dire pas d'obstination déraisonnable, qu'on appelle aussi l'acharnement thérapeutique. Quelqu'un doit partir vers le ciel pour nous, eh bien, laissons-le partir, voyez, si c'est le moment, quoi. Mais n'anticipons pas, quoi, hein, ni euthanasie, ni acharnement thérapeutique. Et puis, il y a une nouvelle loi, une deuxième loi, toujours de M. Leonetti, mais avec un autre député, Claes Leonetti, de 2016, et qui ouvrait la possibilité de demander l'accès à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc c'était un peu pour nous déjà un peu compliqué, ça. Il semble que ça se passe plutôt bien, mais c'était quand même compliqué, ça. Parce qu'il y a des conditions assez strictes, ça se passe bien, le patient doit souffrir de façon insupportable, son décès doit être reconnu comme inévitable et imminent, voyez. Alors, donc la loi Claes-Leonetti, c'est vraiment une loi visant à soulager la souffrance en fin de vie. Alors que le projet de loi qui vient de s'arrêter, c'était de donner la mort. On voit la différence entre les deux. Alors, il y a encore deux questions qu'on va prendre aujourd'hui.
La deuxième question, alors pourquoi cette nouvelle loi alors que la précédente n'était pas complètement appliquée ?
Et oui, parce que les lois précédentes prévoyaient aussi un développement des soins palliatifs. Il y a tout un projet de développement des soins palliatifs qui n'a pas été appliqué du tout. Alors on nous promet avec cette nouvelle loi des millions pour les soins palliatifs, sauf que comme ils ont mis dans la même loi soins palliatifs et euthanasie, en fait, les millions qui seront mis là-dedans, ils seront utilisés aussi pour l'euthanasie, si vous voulez. Donc, les médecins ne croient pas du tout à ce volet-là. Hein. Voilà, donc il y a un vrai problème là-dessus, c'est qu'on craint vraiment un coup d'arrêt au développement des soins palliatifs. Alors que le Comité consultatif national d'éthique a recommandé la généralisation des soins palliatifs avant tout changement législatif. Donc il a proposé vraiment l'inverse de ce que proposait le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement il propose la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie avant le développement des soins palliatifs, alors que le Comité national d'éthique proposait l'inverse. Voyez. Et tout ça, basé sur un principe éthique, évaluer les demandes de mort uniquement quand tout citoyen qui en a besoin pourra bénéficier des soins palliatifs. Parce que si on a des vraies demandes de mort aujourd'hui, il y en a, hein, faut pas se voiler la face, c'est parce que ce sont des malades qui ne bénéficient pas des soins palliatifs. Là, les médecins de soins palliatifs nous disent la demande de mort, elle disparaît quand ils entrent chez nous. Hein, parce qu'on leur donne au contraire un temps de vie qui est plein, hein, avec la famille et avec eux-mêmes. Quoi. Voilà.
Et enfin, troisième question, Monseigneur, peut-on soulager la souffrance ?
C'est une question qui nous touche tous, parce que on connaît tous la souffrance, qu'elle soit morale ou physique. Et surtout, encore plus insupportable à supporter pour nous, c'est la souffrance des autres. La nôtre, on la gère, si j'ose dire, quoi. Voyez, même si c'est parfois très difficile. Mais celle des autres, elle nous est encore plus insupportable. Et donc là, les médecins nous disent qu'en réalité, avec les progrès de la médecine et le développement des soins palliatifs, il est possible de les soulager. C'est d'ailleurs une des priorités absolues des soins palliatifs. Traitement contre la douleur, accompagnement de l'angoisse. Voyez. Mais on ne peut pas répondre à la souffrance par la mort. Il faut répondre à la souffrance par l'accompagnement. Voyez. Et finalement, c'est aussi derrière ça, ce projet de loi nous montre que la société elle a du mal à se situer devant la souffrance. Or, la souffrance, qu'on le veuille ou non, elle fait partie de notre vie, quoi. Et comment l'accompagner ? Mais elle n'est surtout pas, elle n'est pas un bien, mais elle n'est pas à vivre seule. C'est ça qui est dramatique, quoi. Donc la confrontation à la mort, elle est indispensable et elle est inévitable. Voyez. Et c'est de toute manière une souffrance pour le patient. Voilà. Donc comment l'accompagner ? Alors il y a aussi certains qui nous parlent, il y a des douleurs insurmontables. Voyez. Ce qu'on appelle les douleurs réfractaires, qui concernent quelques maladies rares, la maladie de Charcot, le Locking syndrome. Mais en fait, même dans ces cas-là, il y a des progrès qui se font régulièrement. Même la maladie de Charcot, les dernières informations que les médecins ont données à la conférence des évêques, c'est qu'aujourd'hui, même la maladie de Charcot, on arrivait à diminuer fortement les douleurs. Voyez. Et puis, si vraiment on n'y arrive pas, il y a aussi ce qui est possible, de manière exceptionnelle, la sédation profonde en fin de vie, ce qui était prévu par la loi de 2016. Hein. Mais les soins palliatifs, c'est pas que le médicament, c'est tout l'accompagnement global qui permet aussi de réduire les souffrances psychologiques. Voyez, voilà, comme dit la conférence des évêques, mourir reste un passage compliqué et douloureux pour tous. Voilà, et la personne concernée, les proches, mais aussi les soignants, et c'est cela la vie. Et on oublie souvent les soignants. Voyez, j'étais en pastorale des santé pendant deux jours avec la province là, et nous partageaient combien les soignants étaient inquiets de cette loi. Voyez. Et que la plupart allaient refuser, en réalité, d'appliquer cette loi. Donc, ça aurait été très compliqué. Voilà. Donc, chers amis auditeurs, nous devons là aussi nous former sur ces sujets-là pour pas simplement être touchés par la compassion vis-à-vis de la souffrance. Oui, on doit être touché par rapport à la compassion, mais il y a mieux que donner la mort. Il y a les soins palliatifs. C'est surtout ça qu'il faut développer.
C'est le message que vous voulez faire passer, Monseigneur. On va parler d'un chant d'amour. Hein. Alors, on va parler d'un art et foi, une nouvelle façon. Enfin, c'est une nouveauté un peu sur le diocèse, l'organisation d'expositions.
Alors, c'est porté par un diacre permanent, Pierre-Marie Lopez, que vous connaissez bien à RCF. Il a été président d'RCF, animé de nombreuses animations, de nombreuses émissions. Et c'est lui qui a proposé cela d'abord dans sa paroisse, et puis après il est venu le proposer au niveau du diocèse, au conseil épiscopal, et on a fait le choix de soutenir ce projet. Donc ce sera déjà la deuxième exposition pour la paroisse de Vennes. Lui, il habite Rabout, donc c'est sur la paroisse de Vennes. Et cette exposition aura lieu tout cet été dans une des églises du Dévoluy. Je ne sais plus laquelle, vous avez laquelle ?
C'est Agnières, je pense.
Hein, voilà. Tout l'été.
C'est ça.
Donc c'est une exposition de photos faite par une chrétienne protestante de mémoire, alsacienne. Et j'ai regardé le book, c'est magnifique, et ça peut vraiment nous aider à... L'objectif, c'est ce qu'on appelle la pastorale du tourisme, vous voyez, c'est-à-dire que les gens qui passent dans nos églises, eh bien, soient touchés. Alors, à la fois par la beauté des lieux, par tel ou tel tableau, mais aussi par une expo comme ça qui rajoute un peu quelque chose. Et que le Seigneur, quelque chose, il y a, comment dire ça, qui est comme une faille qui se fasse en eux par laquelle la grâce puisse passer, quoi. Voilà. Et donc, souvent, l'art permet cette faille-là et la grâce de passer.
C'est toujours la réflexion aussi entre le cultuel et le culturel aussi. Est-ce que les lieux des églises...
Oui, vous avez raison, c'est tout à fait. Et on signe avec les mairies des conventions pour cela. Alors on a organisé un peu les choses l'année dernière parce qu'il y avait aussi des abus. Donc il s'agit de respecter le caractère chrétien du lieu, hein, pas faire n'importe quoi et surtout que les curés soient au courant. Parce que là où très peu hein, dans le diocèse, ça se passe bien avec les mairies, mais dans un ou deux endroits, il y avait des concerts, le curé n'était pas au courant. Or c'est lui qui est responsable, même légalement, hein, même au niveau de la loi civile française. Et puis surtout, bah, il pouvait organiser des choses lui aussi. Et une sépulture et autres, c'est pas marqué longtemps à l'avance. Donc il faut qu'il le sache. Donc ça, mais ça se fait généralement en bonne intelligence avec les maires. Et là-dessus, je veux les rassurer. La convention qu'on demande de signer à chaque fois, elle est vraiment un encouragement, mais aussi pour que les choses se passent dans la transparence et la clarté. Ouais.
Alors, on va se projeter un petit peu dans l'avenir. Après vos vacances, après l'été sur notre diocèse et partout, on va parler du 16 novembre prochain. Alors, c'est quelque chose qui s'organise bien avant. C'est une journée diocésaine pour l'année de la prière. Qu'est-ce qui va se passer, Monseigneur ?
Alors, c'est un peu le sommet de l'année de la prière pour nous, au sens où c'est l'année de la prière qui est depuis le 1er janvier dernier jusqu'au 24 décembre prochain, où nous avons beaucoup d'activités sur le diocèse, et je trouve que c'est un petit diocèse bien dynamique là-dessus. Et on veut un peu comme ce sommet. Alors, on a trouvé un thème qui est « Chanter, c'est prier deux fois » autour du chant, mais ça concerne tout le monde, même ceux qui savent pas chanter ou qui chantent faux ou qui aiment pas chanter. Hein. Certes, le matin, on aura un peu un sens sur le chant dans notre vie chrétienne. On aura un enseignement sur le sens du chant dans notre vie chrétienne. Mais après la messe ensemble, pendant la messe, on aura un très bel événement. C'est un scoop que je vous donne. On aura normalement, si tout va bien, l'institution Lectorat Acolita de Joseph Nguyen, qui est un séminariste du diocèse, voilà, au cours de ce rassemblement diocésain. Et puis, l'après-midi, en début d'après-midi, on aura, sous forme de vidéo, une présentation par chaque paroisse d'un élément de son plan missionnaire paroissial dans le cadre de la mission Altitude. Et on terminera. Alors, il y aura des ateliers aussi, différents ateliers sur le chant, mais d'autres choses encore. Tout ça est en train d'être défini. Et on terminera par un petit concert par un groupe de musique de pop louange animé par le frère Nicodème, qui est chapelain au Lot, qui s'appelle « Louange des cimes ». Voilà, donc une belle journée au Lot le samedi 16 novembre à marquer dans vos agendas.
Alors, doublement, parce que la journée précédente, donc c'était déjà l'année dernière, je pense.
Ah oui, voilà, oui, il me semble. Hein. 2022 déjà,
voilà.
Ouais.
Voilà, et ça avait été un moment très, très fraternel.
Un très beau moment, et beaucoup de diocésains nous ont demandé de refaire une journée diocésaine comme ça. Et donc c'est l'objectif un peu, surtout qu'au Lot, maintenant, on a cette salle magnifique de la Sainte Famille qui est suffisamment grande, qui peut contenir 400 personnes. Donc un peu les chrétiens engagés de toutes les paroisses, ou même d'autres, peuvent venir largement.
Donc, il faut réserver ce 16 novembre pour cette journée diocésaine pour l'année de la prière autour du chant, le chant d'amour. Alors, Monseigneur, nous allons passer parler à... Ah oui, on avait dit aussi de parler de la sortie du programme annuel du Lot.
Oui, le programme annuel du Lot qui est sorti cette semaine. Donc, je vous invite à inviter à ma place ou à ce même micro, soit le recteur du Lot, soit la religieuse qui a suivi un peu ce programme avec le recteur du Lot, qu'elle puisse... vous en parler de ce programme. En tout cas, un très beau programme et je trouve qu'il est assez astucieux parce qu'il bénéficie des personnes qui sont arrivées sur le diocèse récemment. Je pense à Madame Elisabeth Ranvier, qui fait partie aussi du conseil épiscopal, qui est formée en la méthode du père Montbourquette, qui est une méthode de connaissance de soi, d'estime de soi. Donc elle fait faire deux sessions, je crois, là-bas. Ça continue aussi avec un couple de Haut-Alpins, les Ignesti, sur, comment elle s'appelle, Saint-Hildegarde. Enfin voilà, ils bénéficient d'un certain nombre de personnes locales. Et je trouve que c'est vraiment astucieux. Et puis, il y a les grandes fêtes habituelles. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, il y a un programme spécifique aussi, j'allais oublier de le dire, pour l'année sainte 2025. Évidemment, ils ont bâti beaucoup de choses pour l'année sainte 2025. Et le Lot sera un des deux lieux permanents de l'année sainte avec la cathédrale de Gap.
Donc, nous conseillons aux auditeurs eh bien, de se procurer ce programme.
Je pense qu'il est déjà sur le site, le site internet aussi, du Lot. Et sinon, vous le trouverez en papier. Ils ont fait depuis deux ans une espèce de petite carte sous forme de carte dépliant qui est très facile à mettre dans sa poche et à garder, qui est très agréable.
Il est temps maintenant de l'enseignement. C'est le temps de l'enseignement avec le texte du Vatican sur la dignité humaine, Monseigneur.
Alors on est dans le chapitre 4, hein, vous rappelez, trois premiers chapitres théologiques et chapitre 4 sur quelques violations graves de la dignité humaine. Et on va arriver au deuxième plan, deuxième point. Il y avait d'abord le drame de la pauvreté, et là on va parler de la guerre. Hein, et c'est d'actualité malheureusement dans le monde et en Europe. On est au paragraphe 38, et c'est donc cette deuxième grave violation de la dignité humaine. Une autre tragédie qui nie la dignité humaine est la survenance de la guerre, aujourd'hui comme en tout temps. Les guerres, les violences, les persécutions pour des raisons raciales ou religieuses et tant d'atteintes à la dignité humaine se multiplient douloureusement en de nombreuses régions du monde, au point de prendre les traits de ce qu'on pourrait appeler une troisième guerre mondiale par morceaux. Ça, c'est une citation ancienne du pape déjà, qu'il disait en 2016 déjà, troisième guerre mondiale par morceaux. Avec son cortège de destruction et de douleur, la guerre porte atteinte à la dignité humaine à court terme. Et j'ai noté quatre points qu'il notait. Il faut aller. D'abord, c'est toujours une défaite de l'humanité, même s'il faut réaffirmer le droit inaliénable à la légitime défense, ainsi que la responsabilité de protéger ceux dont l'existence est menacée. Et donc, les Ukrainiens ont un droit à la légitime défense. Mais c'est toujours une défaite de l'humanité, voyez, parce que la perte d'une vie ne serait que d'une seule personne humaine et sacrée. C'est ça, c'est un drame inimaginable derrière toutes les familles, etc. Deuxième point, toutes les guerres, par le simple fait qu'elles contredisent la dignité humaine, sont des conflits qui ne résoudront pas les problèmes, mais les accroîtront. Oui. Contrairement à ce que pense M. Poutine, la guerre ne va pas résoudre son problème de la Russie, mais l'accroître. Troisième point, et donc la guerre n'est pas une solution. Les risques sont toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Troisième point. Aujourd'hui, il est difficile de défendre des critères rationnels qu'on a mûris en d'autres temps pour parler d'une possible guerre juste. Hein, guerre juste, voilà. Et donc, il faut sortir la logique de la légitimité de la guerre. Aujourd'hui, on a des moyens, et notamment des moyens internationaux, et certains pays l'ont fait. Je pense dans l'Amérique latine, il y avait eu un conflit de frontières entre deux pays. C'est une communauté italienne qui a aidé à résoudre ce conflit. En Afrique aussi, à un autre moment. Donc l'ONU aussi aide à faire beaucoup de conciliation dans cette. Donc voilà, il n'y a pas de guerre juste. Ça n'existe pas, la guerre juste. Il peut y avoir une guerre de défense quand on est attaqué. Et là, c'est légitime. Mais encore faut-il respecter les lois de la guerre là-dessus. Et puis, quatrième point là-dessus, la relation intime qui existe entre la foi et la dignité humaine rend contradictoire le fait que la guerre soit fondée sur des convictions religieuses. Hein, on ne peut jamais fonder la guerre sur des convictions religieuses. Et là, le pape se cite lui-même, « Celui qui invoque le nom de Dieu pour justifier le terrorisme, la violence et la guerre ne marche pas sur sa route. La guerre au nom de la religion devient une guerre à la religion elle-même. Hein, » voilà. Voilà un peu les belles choses. Et ben, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter un peu là-dessus. On a encore 3 minutes, c'est ça, hein ?
Deux minutes et demie.
Alors, je vais simplement citer les autres atteintes que l'on verra dans les fois prochaines, parce que certaines, ça sera peut-être déjà la rentrée. Donc, il y a eu le drame de la pauvreté, la guerre, il y a le travail des migrants, il y a la traite des personnes, il y a les abus sexuels, il y a les violences contre les femmes, il y a l'avortement, la gestation pour autrui, l'euthanasie et le suicide assisté, la mise au rebut des personnes handicapées, la théorie du genre, le changement de sexe, les violences numériques. Voilà. Vous voyez, il y a des choses à la fois très anciennes, la guerre, la pauvreté, et des choses
qui
complètement récentes.
Nouvelles.
Oui. La question du changement de sexe, on en reparlera tout ça. Hein.
La violence digitale,
oui. La violence numérique, oui. Tout ça c'est nouveau. Mais combien de jeunes aujourd'hui se suicident après avoir été, comment on appelle ça maltraités sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà, donc ce sont des sujets actuels qui sont importants à prendre en compte. Et c'est beau que on a, voyez, nous, comme chrétiens, un texte sur lequel on peut s'appuyer, vraiment. C'est pourquoi, je dis tout à l'heure, je proposais à nos auditeurs, dans ce temps de discernement pour le vote, eh bien, de lire ce texte-là. La base, c'est vraiment la dignité chrétienne, quoi.
Ce que nous pouvons conseiller, c'est aussi d'aller sur les sites internet qui sont des références aussi aujourd'hui. Le numérique a du bon quand même.
Ah, le numérique a du bon, il faut le reconnaître. C'est peut-être ce qui manque d'ailleurs dans ce texte-là, on se disait, parce qu'on l'a étudié en pastoral de la santé province hier aussi, on disait qu'il manque peut-être aussi les côtés positifs là-dessus. Mais voilà, c'était un texte aussi pour dénoncer les atteintes et pour fonder à la fois sur la réflexion humaine avec la Déclaration humaine des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi sur notre foi, la dignité humaine. Voyez. Voilà, donc c'est un très beau texte que je vous invite à lire. Et on va continuer à l'étudier ensemble. Donc si vous nous suivez, eh bien, vous l'aurez
au prochain rendez-vous.
Au prochain rendez-vous.
Monseigneur, il est temps de se quitter. On vous souhaite un bon week-end.
Merci beaucoup.
Occupé, je suppose.
Comme toujours. Voilà. Et à la prochaine fois.
À bientôt. Au revoir.